Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Patrick Rigy. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Patrick Auguet, un percheron qui, après HEC et sa licence en droit, a travaillé pour l'Union européenne. Il a également exercé des mandats publics, municipal, départemental, régional, puis à l'Assemblée nationale, où il a siégé à la délégation pour les affaires européennes. Il exerce de nombreuses activités associatives. Il est également écrivain. Je l'ai interviewé pour Paul Deschanel, Au-delà de la chute du train. Et son dernier ouvrage, 1914-1918, Les relations complexes entre le pouvoir politique et les militaires. Un livre édité par les Amis du Perche. Dans cet ouvrage, Patrick Auguet montre tout ce que la démarche parlementaire a apporté à notre pays pour lui permettre de surmonter finalement l'épreuve. Donc vous voyez, chers amis, un ouvrage très important que j'ai beaucoup aimé. Patrick Auguet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, c'est un sujet qui vous tient à cœur, et grâce à votre ouvrage, on comprend mieux qui sont les acteurs en cause. Et je voudrais lire le début de votre livre. Ça commence ainsi, c'est page 17. En 1914, l'on n'a absolument pas prévu une guerre telle qu'elle s'est finalement déroulée. En effet, politiques comme militaires pensent en général la guerre à venir comme la précédente. Et effectivement, dans tout votre livre, vous allez bien faire les différences entre parlementaires et militaires. Et ça, je trouve que nos amis auditeurs doivent acheter ce livre, mais aussi nos jeunes auditeurs qui pourront mieux comprendre, grâce à ce livre, comment s'est passée cette guerre de 14. Alors, justement, peut-être, quel rôle va jouer le Parlement? Peut-être aussi, dites-nous, quels sont les trois acteurs en cause dans cette guerre, puisque j'ai évoqué à la fois le Parlement et le gouvernement. Mais il y a un troisième acteur.
Alors, en effet, c'est une guerre qui, de l'analyse de tout un chacun, que ce soit les militaires d'ailleurs ou les politiques, devait être une guerre courte et qui devait effectivement, avant quelques mois, être conclue par une victoire supposée de la France. Ça a eu comme conséquence une certaine impréparation du conflit tel qu'il s'est déroulé dans la réalité, puisqu'au total, au lieu de durer 4 mois, il a duré 4 ans, exactement, avec des conséquences dont on aura l'occasion de parler dans un instant. Alors, quels sont les acteurs qui étaient effectivement prêts à intervenir sur une évolution qui n'a pas été celle que l'on pouvait prévoir? Tout d'abord, évidemment, les militaires. Lorsque la déclaration de guerre a été faite au début du mois d'août 1914, eh bien, le pouvoir politique a donné aux militaires, en quelque sorte, toute la compétence nécessaire pour faire face à l'offensive allemande, qui, comme on l'a constaté, n'est pas venue par l'est de la France, comme d'ailleurs cela avait été préparé initialement, mais par la Belgique, par contournement des troupes françaises. Les militaires, avec Joffre, qui était le chef d'état-major, ont alors considéré que, après tout, les politiques n'avaient pas trop à se mêler de ce combat. Et au moment où les Allemands ont avancé vers la Marne, ils ont d'ailleurs estimé qu'il serait mieux que le gouvernement et le Parlement s'exilent vers Bordeaux, n'est-ce pas, au cas où les Allemands auraient effectivement conquis la capitale. Et dans ces conditions, le grand QG, le grand état-major, le grand quartier général, avait en quelque sorte toute latitude pour agir à sa guise. C'est le premier élément de cette guerre qui a donné aux militaires effectivement les pleins pouvoirs. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que l'évolution de la guerre n'était pas celle qui avait été prévue et sont entrés en action les politiques au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois le gouvernement et ensuite le Parlement. Il a fallu effectivement que, à mesure que les difficultés étaient rencontrées par les opérations militaires, à mesure que les conséquences dramatiques des combats se faisaient jour, eh bien, les politiques s'interrogent sur leur capacité de répondre aux besoins des militaires en matière d'armement, en matière de moyens logistiques, d'une part, et d'autre part, sur la façon dont les militaires ordonner en quelque sorte les combats et la façon dont la stratégie retenue se développait avec des résultats qui malheureusement étaient insuffisants. Donc voilà le cadre général dans lequel se situe la position des trois acteurs principaux, oui. Les militaires au départ et puis progressivement le gouvernement et le Parlement qui effectivement a joué son rôle dans l'analyse des situations et dans les rectifications, modifications qu'il a fallu apporter à la façon dont la guerre était menée.
Oui, d'ailleurs, page 27, vous écrivez « En résumé, en août 1914, Joffre est au front et chef de toutes les armées françaises. Le gouvernement est à Bordeaux et l'autorité militaire s'exerce sur tout le territoire national. Joffre se retrouve donc, de facto, à la tête de l'État. »
Exactement.
Ça, c'est quand même assez impressionnant, je dirais.
Et c'est assez particulier, puisque dans la zone où Joffre avait le commandement, c'est-à-dire toute la zone nord et est de la France, il avait même compétence sur les préfets. C'est-à-dire qu'il y avait un gouvernement militaire, en quelque sorte, de la France. Et Joffre avait effectivement, à ce moment-là, tous les pouvoirs.
Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez que Joffre soit, en quelque sorte, on peut le dire, à la tête de l'État ?
Alors, il s'est trouvé à la tête de l'État, et donc, question qui a été posée très rapidement, c'est que la guerre, d'abord, n'était pas aussi courte qu'on l'avait pensé, que les résultats des offensives qui étaient menées par les Français aboutissent à des déboires considérables. Imaginons que dès le 23 août, c'est-à-dire trois semaines après le déclenchement de la guerre, il y a eu un combat qui, dans la même journée, a vu la mort de 21 000 Français.
Oui.
Donc ça veut dire que nous n'avions pas préparé la guerre telle qu'elle s'est présentée face aux Allemands, qui étaient beaucoup mieux armés en matière de moyens logistiques, qui étaient mieux armés que nous en matière d'artillerie, en matière de mitraillettes, en matière même de fusils automatiques. Et donc on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait des carences dans la préparation de nos troupes. Imaginez aussi, et tout un chacun l'a à l'esprit, que nos soldats avaient encore un pantalon couleur garant, c'est-à-dire couleur rouge, et n'avaient pas de casque. Ils avaient effectivement des képis qui, évidemment, ne les protégeaient pas contre les obus ou contre les balles adverses. Donc on s'est rendu compte très rapidement que parce que la guerre n'était pas aussi facile qu'on l'avait pensé, parce qu'elle durait beaucoup plus que l'on avait prédit, eh bien, il fallait s'interroger sur la façon dont aussi bien le gouvernement, en ce qui concerne sa politique de défense, c'est-à-dire la capacité de donner aux militaires les moyens d'action qui leur étaient nécessaires, et les militaires, en ce qui concerne la façon dont ils percevaient le conflit, devaient être réexaminés. Et ça a été le rôle, effectivement, du gouvernement d'une part, mais aussi de façon très décisive du Parlement.
Oui, c'est ça. Le rôle du Parlement va être vraiment très important.
Alors, le rôle du Parlement a été très important et il n'a pas été très facile à exercer au départ, parce que au-delà du fait qu'on a envoyé les parlementaires à Bordeaux au début, comme je le disais tout à l'heure, ainsi qu'avec le gouvernement, il y avait une censure qui s'était installée parce que les militaires n'entendaient pas effectivement communiquer sur ce qui se passait. Et même d'ailleurs, le président de la République, qui était le chef des armées, se plaignait de ne pas connaître suffisamment l'évolution de la situation. Joffre était effectivement très désireux de ne pas communiquer sur les conditions dans lesquelles se déroulait le conflit. Et donc, les parlementaires, au départ, n'avaient pas les moyens d'information qui leur étaient nécessaires pour interpeller le gouvernement.
D'ailleurs, Joffre a été presque pris pour un dictateur.
Alors, effectivement, il avait des pouvoirs presque dictatoriaux.
Je lis dans votre ouvrage, enfin, Joffre est accusé d'être un dictateur en 1914 et Clémenceau l'est en 1918, alors que ni l'un ni l'autre ne l'a été. C'est quand même assez paradoxal.
Alors, il faut effectivement nuancer. Donc, il avait effectivement les pleins pouvoirs dans la zone où il était supposé agir de façon autonome, et ceci jusqu'à la fin de l'année 1914. Mais à partir du début de l'année 1915 et pendant toute la période 1915-1916, eh bien, on s'est rendu compte que la stratégie qui était suivie par Joffre, qui était une stratégie d'offensive permanente, c'est-à-dire on essayait de reconquérir du terrain à partir effectivement de positions préparées à l'avance, mais malheureusement, les conditions de réaction des Allemands avec les mitrailleuses, avec l'artillerie, etc., faisaient que c'était des offensives qui n'avaient pas de prolongement, qui ne permettait pas de conquérir véritablement les territoires et qui était terriblement meurtrière. Alors les parlementaires se sont petit à petit rendus compte de cette situation. Comment l'ont-ils fait ? Je vous le disais, il y avait la censure qui faisait qu'au départ, l'information ne parvenait à l'Assemblée, à la Chambre des députés, que de façon très, très parcellaire. Alors il y a eu deux éléments décisifs pour leur permettre de mieux connaître la situation. D'abord, un certain nombre de parlementaires avaient été mobilisés, c'est ce qu'on a appelé les députés soldats. Et lorsqu'ils revenaient du front, ils étaient capables effectivement de dire à leurs collègues, voilà comment les choses se passent, voilà ce qui fonctionne et voilà les insuffisances tant de la politique de défense du gouvernement en matière d'armement, en matière de munitions, etc., qu'en matière de stratégie militaire. Et puis, au bout d'un certain temps, lorsque véritablement la situation continuait à s'enliser dans des conditions difficiles, ils ont obtenu de se réunir en comité secret pour pouvoir véritablement interpeller le gouvernement de façon très vigoureuse sur l'ensemble du dispositif de défense et militaire. Et à partir de là, ils ont obtenu effectivement des infléchissements tout à fait importants, tant de la politique gouvernementale que de la stratégie des militaires. Ils en sont arrivés même à un certain moment à obtenir du gouvernement le départ de Joffre, qui, après Verdun, et en dépit du fait que Verdun avait permis de stabiliser le front, eh bien, était considéré comme n'étant pas en mesure de mener les offensives décisives pour la suite de la guerre. Et donc, Joffre a été effectivement prié de présenter sa démission. On lui a donné à ce moment-là le bâton de maréchal, mais il a été remplacé. Alors, par Nivelle, et qui a mené aussi la catastrophe du chemin des dames. Et ensuite, alors, les parlementaires ont obtenu, en quelque sorte, la nomination du général Pétain. Mais c'est encore une nouvelle étape.
Alors, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec Patrick Auguet et nous évoquons le livre qu'il vient d'écrire, 1914-1918, Les relations complexes entre le pouvoir politique et les militaires. Un ouvrage paru aux éditions Amis du Père. Alors nous avons évoqué les débuts de la guerre et nous en sommes à 1917. Et je lis page 77. Tous les regards se portent alors vers le nouveau ministre de la guerre, le général Lyoté, et vers le nouveau commandant en chef Nivelle. Sont-ils les sauveurs espérés ou ne sont-ils que le fruit des luttes internes entre le gouvernement qui vient de surmonter une nouvelle crise et les parlementaires dont l'animosité, la haine chez certains du haut commandement demeure intacte? Eh bien, c'est également ma question. Patrick Auguet, si vous voulez bien donc revenir à notre année 1917.
Alors en effet, les parlementaires, au vu de ce qui s'était passé, notamment pendant toute cette gigantesque bataille de Verdun, qui a duré de mois de février jusqu'au mois de décembre 1917, avec un nombre, disons, tout à fait inacceptable de morts et de blessés, c'était un combat tout à fait dramatique, eh bien les parlementaires ont à ce moment-là interpellé de façon encore plus vive qu'auparavant le gouvernement, disant qu'effectivement il fallait arrêter ce type d'intervention et qu'il fallait maintenant penser à une autre stratégie. Alors le gouvernement avec Crubon, pour essayer de se concilier l'état-major, de nommer comme ministre de la guerre des généraux. Alors il y a eu d'abord Gallieni, mais qui est décédé pour raison de santé, et puis ensuite effectivement Lyoté, qui a été nommé ministre de la guerre au moment où Joffre précisément a été contraint de démissionner. Le problème, c'est que Lyoté a mal vécu ces interpellations parlementaires, c'était pas véritablement quelqu'un qui était prêt à se justifier devant les parlementaires, peut-être parce qu'il considérait qu'après tout, il n'avait pas les compétences nécessaires pour faire valoir les positions qui auraient été nécessaires de mettre en œuvre. Alors Lyoté est resté assez peu de temps à son poste. Il a rapidement démissionné, notamment après le désastre du Chemin des Dames.
Voilà,
parce que
terrible.
Là, ça a été alors encore pire qu'auparavant, c'est-à-dire que Nivelle avait pensé pouvoir reprendre l'initiative et bousculer les lignes allemandes. Et c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Et là encore, il y a eu des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Et le gouvernement Briand, à ce moment-là, a été obligé de démissionner. Alors, on arrive à ce moment-là à une autre phase de la guerre, parce que on considère à ce moment, dans ces conditions, et les parlementaires le disent avec force dans le cadre des comités secrets dont je parlais tout à l'heure, que on ne pouvait pas continuer à essayer de faire des offensives qui ne pouvaient déboucher que sur des catastrophes humaines et matérielles et stratégiques. Et alors, les, disons, politiques en général, le gouvernement qui a été dirigé à ce moment-là par quelqu'un qui est peu connu, mais qui a quand même fait un travail intéressant, qui était M. Ribaud, et qui avait comme ministre de la guerre, non plus un général, mais un politique, qui s'appelait M. Painlevé, eh bien, on pensait, comme le pensaient les parlementaires, qu'il fallait confier le haut commandement à un général qui avait fait ses preuves en quelque sorte pendant la bataille de Verdun, c'est-à-dire au général Pétain. Et le général Pétain est arrivé dans des conditions évidemment difficiles. Il y avait eu la défaite du Chemin des Dames et il y avait eu les mutineries.
En plus,
parce que les militaires ne supportaient plus d'être envoyés en quelque sorte comme ça, j'allais dire, pour employer un terme un peu trivial, mais à l'abattoir, alors que...
C'est ce qu'on employait comme terme.
Les résultats n'étaient pas là.
Ben oui.
Si encore on avait permis, effectivement, à ces offensives d'avancer, de regagner du terrain, on aurait pu penser qu'il y avait une justification. Donc le général Pétain est arrivé, il a pris un certain nombre de mesures pour... calmer en quelque sorte la troupe. Il était temps de faire en sorte de leur donner des moyens de vie un peu plus décents de ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent. Mais surtout, le général Pétain a pensé, et c'était l'avis aussi des parlementaires, qu'il fallait arrêter ces offensives à outrance et qu'il fallait attendre probablement que le nouvel armement qui commençait à se faire jour soit produit en quantité suffisante, c'est-à-dire les chars et les avions de combat. Alors que jusqu'à présent, nous n'avions ni l'un ni l'autre et que donc on était soumis au tir des mitrailleuses ou au tir de l'artillerie ennemie. Donc il y a eu effectivement de la part du général Pétain un parti pris de cesser ces offensives et d'attendre que les moyens matériels parviennent effectivement dans les unités. Parallèlement, il avait été effectivement décidé par les Américains d'entrer en guerre et il estimait qu'il fallait attendre que les Américains arrivent effectivement sur le théâtre d'opération pour pouvoir reprendre avec ce nouveau matériel et ses troupes d'appoint importantes, eh bien, les offensives nécessaires pour essayer de mettre fin à la guerre. Donc vous voyez que c'est un changement total de stratégie, et sur ce plan-là, les parlementaires avaient effectivement œuvré pour que ça puisse effectivement être mis en œuvre dans ces conditions.
Et c'est à ce moment-là que Clémenceau arrive.
Alors, Clémenceau arrive effectivement un peu plus tard, à la faveur de ce renouvellement de la stratégie militaire, et en même temps parce que un événement important s'est produit, c'est que l'Union sacrée, qui avait effectivement été de mise depuis le début de la guerre, c'est-à-dire l'accord de l'ensemble des partis politiques autour des combattants et du gouvernement, eh bien cette Union sacrée avait été mise à mal en 1917 par une partie des parlementaires, notamment les parlementaires socialistes, qui commençaient à douter précisément de la capacité que l'on aurait à avoir une issue favorable à ce conflit. Et en plus, qui avaient constaté que la révolution en Russie et la paix qui s'en est suivie entre la Russie et l'Allemagne risquait de nous valoir effectivement de nouveaux déboires. Et il y avait donc un certain nombre de responsables politiques qui étaient partisans d'une armistice prématurée, d'une paix blanche, n'est-ce pas, qui aurait finalement constaté que il fallait en revenir à la situation d'avant la guerre. Évidemment, ça n'était pas acceptable, ni Poincaré, ni l'ensemble des parlementaires n'avaient accepté cette hypothèse, parce que ça voulait dire qu'on ne récupérait pas l'Alsace et les départements de Lorraine qui étaient passés sous la houlette allemande en 1870. Et donc Poincaré, pour remettre de l'ordre au niveau interne et aussi sur le plan militaire, a fait appel à son ennemi de toujours, disons son adversaire pour employer un terme plus adéquat, eh bien a fait appel à Clémenceau.
Alors, dans votre livre, j'aime bien, page 89, je lis « Clémenceau redevient, à l'âge de 76 ans, nouveau président du Conseil avec le portefeuille de ministre de la guerre. » Alors, son programme, et je lis « Son programme de gouvernement, présenté à la Chambre le 20 novembre 1917, est tout entier tourné vers la guerre, à l'heure où la France doute de la victoire, en pleine crise sociale et morale. Il s'agit donc avant tout, pour Clémenceau, de restaurer la confiance des Français en leurs élites politiques et militaires, en mettant tout en œuvre pour que la République soutienne le choc face à l'ennemi intérieur et extérieur. » Je crois que votre...
Voilà, c'est tout à fait ça. Il y avait donc effectivement la nécessité de remettre en quelque sorte en œuvre cette volonté de combattre à l'intérieur et cette capacité militaire vis-à-vis de l'ennemi. Et donc Clémenceau a pris un certain nombre de décisions assez radicales, comme il était capable de le faire. Il n'a pas remis en cause le général Pétain, mais il a eu à cœur de faire en sorte que l'on puisse désigner, et ça a été fait au début de 1918, un généralissime des armées alliées. C'est-à-dire qu'il était jusqu'à présent effectivement constaté que les troupes françaises menaient des offensives, que les troupes anglaises menaient des offensives, que voilà maintenant que les Américains allaient arriver, et peut-être aussi sur une autre façon de concevoir le conflit. Et Clémenceau a estimé, d'autant plus qu'à ce moment-là, les Allemands avaient fait une nouvelle offensive qui les avait presque amenés en début de 1918 sur les rives de la Marne, comme 4 ans plus tôt. Eh bien, Clémenceau a obtenu, de la part des Alliés, il a fallu qu'ils se battent avec les gouvernements respectifs, d'avoir un commandement unique qui a été confié au maréchal Foch. Et à ce moment-là, ça a permis effectivement à l'ensemble des troupes alliées, avec le renfort américain, eh bien, de reprendre une nouvelle offensive sur les Allemands. Il faut reconnaître que les Allemands, à ce moment-là, avaient été affaiblis parce qu'il y avait eu un blocus, leur approvisionnement, qui faisait qu'ils avaient à l'intérieur même aussi des graves difficultés parce qu'il y avait des problèmes alimentaires, des problèmes de survie qui se posaient pour la population. Et puis, ils n'avaient plus les moyens aussi de construire les armements nécessaires et à la dimension et en quantité nécessaire pour poursuivre les offensives. Et c'est ainsi que, à partir du mois de juillet 1918, grâce à cette énergie que Clémenceau a manifestée, grâce à la volonté qu'il a su insuffler à l'ensemble des troupes alliées, eh bien, l'offensive a pu être reprise et aboutir en novembre 1918 à l'armistice, c'est-à-dire à la défaite des Allemands et à leur demande effectivement de cesser le combat.
Oui. Page 90, vous écrivez « La politique que mène Clémenceau est donc faite à la fois de fermeté et de transparence à l'intérieur et de volontarisme à l'extérieur ».
Voilà, c'est tout à fait ça. Alors avec un élément intéressant, c'est que vous citiez tout à l'heure le fait qu'on avait pu le considérer qu'il était dictateur. Non, il était autoritaire, il était volontaire, mais il s'est toujours lui-même appuyé sur le Parlement pour mener son combat. Il avait fait donc son deuil de la fin de l'Union sacrée, mais sa détermination à combattre lui avait valu aussi bien le soutien de la droite que d'une partie de la gauche en dehors des socialistes. Et il a donc en permanence travaillé en liaison avec les parlementaires pour faire en sorte que le conflit puisse se conclure victorieusement.
Oui. Alors je terminerai sur cette phrase, page 99. « Pour autant qu'un seul homme extraordinairement grandi puisse jamais incarner une nation, Clémenceau incarnait la France. »
Absolument. Et donc effectivement, ça a été son combat ultime, mais le combat majeur, effectivement, qu'il a mené et qui fait qu'il a gardé dans notre mémoire collective, effectivement, une place tout à fait à part.
Eh bien, je rappelle le titre de votre ouvrage, 1914-1918, Les relations complexes entre le pouvoir politique et les militaires. Ce sont des actes du colloque du 3 octobre 2015 à Nogent-le-Rotrou, un ouvrage qui est paru aux éditions des Amis du Perche. Un grand merci, Patrick Auguet, parce que eh bien, vous faites une démonstration brillante de cet ouvrage.
Merci à vous.
J'espère. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. The